On est sur Mur et Rignier. Toute la journée, en fait, toute cette émission qui est en train de se dérouler n'aurait pu se dérouler sans la contribution émérite de Maud Civelle, que je tiens à citer, que je tiens à remercier, parce que c'est vraiment important. Je pense que nous sommes arrivés au terme de l'émission.
Oui. Là, nous allons.
Radio G. 101.5 FM.
C'est l'or, il est l'or, l'or de ce pays.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins, à bicyclette, à bicyclette, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Il est l'heure, Monseigneur. On est dans une équipe presque complète. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé qu'on soit aussi nombreux en studio. Donc j'ai le plaisir d'être avec Marc. Bonjour Marc.
Bonjour.
Avec Ricardo.
Bonjour.
Salut Ricardo. Et Jean-Jacques.
Et bonjour.
Bon, comme à notre habitude, on va avoir une petite année mystère à découvrir ensemble. Et puis des chroniques comme on les aime tant, avec le pour ou contre. Et puis voilà, ça va être tendu cette semaine, hein. Mais on commence tout de suite l'année mystère avec un petit peu de soleil et une chanson qui devrait vous rappeler des souvenirs, j'imagine. Si je vous dis Niagara, c'est l'amour à la plage. C'était Niagara avec « C'est l'amour à la plage ». Ça ne nous rajeunit pas, hein, tout ça. Bon, on va enchaîner immédiatement avec la rubrique du FC Que Choisir. Et Jean-Jacques, cette semaine, qu'est-ce que tu nous as choisi comme sujet ?
Ah, je vais parler du courrier postal.
Ouf.
Oui, je sais bien, je sais. Mais bon, les jeunes ne font pas trop de courriers postaux. C'est surtout les réseaux sociaux, voilà. Ben, le courrier postal, distribution en faillite. La distribution du courrier postal connaît une diminution spectaculaire chaque année.
C'est à cause des mails.
Bah, évidemment.
Voilà.
Évidemment. Dès lors, cette activité de monopole pour la poste devient difficilement supportable. Les infrastructures sont de plus en plus surdimensionnées par rapport au volume à traiter. C'est-à-dire qu'ils sont dans des bâtiments et ça coûte de plus en plus cher, sauf qu'il y a de moins en moins de courriers, donc il y a de moins en moins d'argent qui rentre. Voilà. Ainsi, le déficit se creuse avec la baisse du chiffre d'affaires. Le courrier postal est dépassé par le développement du numérique, comme tu le disais, Raphaël, et l'évolution des usages. L'épidémie a encore accentué la tendance avec une diminution de près de 20% du trafic sur un an. C'est une baisse record qui aggrave l'important déficit de cette activité, plus d'un milliard d'euros. L'augmentation du coût d'affranchissement est pourtant constante et supérieure à 10%. Le prix du timbre a doublé en 10 ans.
C'est les collectionneurs qui vont être riches.
Oui, mais les timbres, les derniers timbres, c'était pas très beau, je trouve. Enfin, mais tout le monde a fait, je veux dire, des collections de timbres. Hein. Moi, je veux dire, au lycée, autrefois, je veux dire, bon, puis après, j'ai abandonné vite, hein, mais pour faire comme tout le monde aussi, parce que tout le monde avait ses albums, hein, Louis.
Parce qu'on devait être au timbré. Oh, pardon.
Bon, c'est pas dramatique en termes de pouvoir d'achat, puisque la moyenne est de 5 lettres expédiées par foyer français en 2020. Donc on ne dise pas, ouais, ça coûte une fortune. Non, c'est vrai qu'en envoyant 5 lettres, tu multiplies par un peu plus d'un euro, bon, c'est pas énorme.
Un carnet de timbre pour 2 ans, ça va.
La Poste cherche des solutions, car le service postal universel demeure pour elle une obligation. Ce monopole relève d'une directive européenne de 1997. Elle oblige l'entreprise titulaire à relever les prix, les plis, déposer et distribuer le courrier au destinataire sur tout le territoire national, 6 jours sur 7, normalement. La Poste utilise désormais son réseau de distribution pour d'autres activités, ça tout le monde en a entendu parler, hein. Prise en charge de colis, service à la personne par exemple. La dégradation du service de courrier sera une autre conséquence de la concurrence par le téléphone et la messagerie. Ainsi, le délai d'acheminement garanti sera porté à 3 jours contre 1 ou 2 aujourd'hui. Là encore, il n'est pas certain que ce soit très grave pour les expéditeurs ou les destinataires, puisque la rapidité est devenue l'apanage du numérique. Pour les cas d'urgence, il faudra donc accepter de payer le prix. L'apanage du numérique, pas pour tout le monde, on le sait bien. Parce qu'il y a des personnes qui sont complètement contre ça.
Il y a la fracture aussi. Hein.
Ouais. Alors, moi, je me suis surpris à envoyer. Excuse-moi, Ricardo. Je me suis surpris à envoyer des cartes postales l'année dernière à cause de la situation. Puis en plus, je me suis dit putain, je veux dire que ça va changer. Je vais pas faire comme les autres, quoi. Les cartes postales. Oh là là.
Moi, en voyage, j'aime toujours bien envoyer des cartes postales. Je dis ça, je remarque que ceux à qui j'envoie, c'est surtout souvent des personnes âgées autour de moi, mais tout le monde me demande au retour, et des fois, bon, c'est assez drôle. Une fois, j'ai envoyé une carte postale, je crois que je sais plus si c'était au Japon ou au Bénin, et j'ai envoyé le carte postale, j'étais revenu de vacances, et avant que la carte postale n'arrive.
Ouais. Non, en fait, c'est vrai, je veux dire, tu vas loin, bon. Même si la taxe carbone, après, tu vas loin. Je veux dire, c'est bien quand même d'envoyer une carte du bout du monde.
Ouais. Hein?
C'est vrai que c'est quand même plus important. Ah, tu te rends compte le trajet qu'elle fait, cette carte ? Alors que si tu envoies une photo, bon, elle fait le trajet aussi, mais c'est pas pareil quand même.
Alors, c'est ce que je voulais aborder dans ta chronique. Je trouve que le courrier postal a une valeur affective que le mail n'a pas. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la rareté qui crée la chose, mais aujourd'hui...
C'est plus personnel.
Voilà, quand j'ouvre... ma boîte à lettres, je vois un courrier autre que les factures et les publicités. Je suis heureux. Enfin, je suis content quand quelqu'un m'envoie, par exemple, ou je reçois, je sais pas, un bon anniversaire ou quelque chose par mail. Je suis tout aussi heureux, mais sauf que
je pense que les cartes d'anniversaire, c'est encore maintenu. Pour mon cas personnel et puis ma femme et tout ça. Je veux dire, mais bon, c'est vrai que c'est pas des petits jeunes qui nous envoient ça. Hein.
Ouais, mais après, les gens ont tendance plus à le donner en main propre.
Il y a ça aussi, c'est vrai.
Il y a un inconvénient quand même à la carte postale. Hein. c'est qu'il n'y a pas de correcteur d'orthographe. Hein. Non, mais pour le coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus personnel. Ouais, ça fait effectivement plus plaisir, je crois. Bon, la poste, c'est quelque chose qui a été initié, si je ne dis pas de bêtises, par Bonaparte, quasiment.
Ah ouais?
Voilà.
C'est vrai.
On a fêté son anniversaire il n'y a pas si longtemps. Donc
il n'a pas fait que des choses mauvaises.
Voilà. Mmh. Et pour le coup, c'est vrai qu'on se pose la question du maintien du service 6 jours sur 7. C'est compliqué. Et il me semble que dans certaines villes, il y a même un réseau de distribution parallèle à la poste.
Oui, privé.
Oui.
Bah, comme tous les services publics peuvent être éventuellement remplacés par des. Ce qui n'est pas forcément souhaitable. Hein. Mmh. C'est alors, c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui estime que ça serait pas mal parce qu'ils voudraient avoir un service qui soit un peu plus efficace et tout ça, mais qui nous coûterait moins cher, enfin voilà.
Mais en tout cas, je constate qu'on reçoit encore quand même pas mal de publicité par la poste.
Ça, c'est sûr.
Des belles lettres avec du beau papier glacé.
Alors, voilà, c'est ça. Faut pas faire la confusion avec la pub.
Ouais. Qui est... J'ai le stop pub, moi, sur ma boîte aux lettres.
Moi, je l'ai, mais je continue
à recevoir. Moi, je l'ai aussi, mais ce sont des courriers, là, quand même.
Oui, oui. Non, c'est vrai qu'on reçoit des courriers. Alors, des trucs assez onéreux. Je pense que ça doit coûter des sous, même si c'est un envoi en nombre. Mmh. Mais je veux dire que c'est vrai que, comme tu dis, Raphaël, le kilo de pub papier dans les boîtes aux lettres le lundi ou le mardi, ça y va, quoi. Mmh. Et même, à la limite, hier, je vais te dire quelque chose, hier, j'avais ça en double. Donc, il a dû se tromper, ou alors il fallait qu'il s'en débarrasse le plus vite possible. Comme ça.
Ça pourrait faire l'objet d'un pour ou contre la publicité, ça.
Oui, parce que on en parlera. C'est un débat parallèle, mais moi, je suis partagé entre l'environnement, donc la déforestation, et
l'information,
mais aussi ceux qui le distribuent, ça leur crée du boulot.
Ah, en fait.
Donc, je suis partagé, moi ça.
On va faire débat. Aujourd'hui, on a un autre pour ou contre à vous proposer. On va enchaîner immédiatement avec un deuxième morceau de musique sur l'année mystère. Et puis, on va parler de l'année mystère tout de suite après.
Ça va.
On écoute le JJG. Alors, JJG, c'est qui, Ricardo?
Jean-Jacques Goldman.
Bravo. Bon, allez, c'est parti pour la vie en par procuration. À tout de suite.
Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Levé sans réveil avec le soleil, sans bruit, sans angoisse, la journée se passe. Repasse et poussière, y a toujours à faire. Repas solitaire, en point de repère. La maison si nette, qu'elle en est suspecte. Comme tous ces endroits où l'on ne vit pas, les êtres ont cédé, perdu la bagarre. Les choses ont gagné, c'est leur territoire. Le temps qui nous casse ne la change pas. Les vivants se fanent, mais les ombres pas. Tout va, tout fonctionne, sans but, sans pourquoi. D'hiver en automne, ni fièvre, ni froid. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer. Devant son poste de télévision, elle apprend dans la presse un scandale, la vie des autres qui s'étale. Mais finalement de moins pire en banal, elle finira par trouver ça normal. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer. Mais ça fait bien loin que personne la touche. Des mois, des années, sans personne à aimer. Et jour après jour, l'oubli de l'amour. Ses rêves et désirs, si sage et possible. Sans cri, sans délire, sans inadmissible. Sur 10 ou 20 pages de photos banales. Bilan sans mystère, d'années sans lumière.
Ah, Jean-Jacques Goldman, ça fait du bruit autour de la table. Hein. Oui. Des commentaires sur l'année mystère et sur Jean-Jacques.
On était dithyrambique sur lui pendant la pause musicale.
On peut difficilement dire du mal de Jean-Jacques Goldman. Je veux dire que bon, il a jamais fait de coup d'éclat, il a fait que des choses plutôt pas mal, quoi. Mmh. Bah, ce qu'on en connaît.
Il a beaucoup de succès à son compte, et c'est ce qu'on disait pendant le morceau. Il a fait autant de musique pour les autres que pour lui-même. Et ça, effectivement.
Ce qu'on peut lui reprocher, par contre, c'est que c'est vrai que même s'il y a la patte Goldman, il y a des moments, ça se copie. Des chansons pour Patricia Cass ou pour Mach. Il y a des fois, c'est un peu trop, mais c'est toujours vachement bien foutu.
Eh oui. Bon, les amis, l'année mystère, en l'occurrence, on a passé Niagara avec C'est l'amour à la plage, Jean-Jacques Goldman avec La vie par procuration. Qu'est-ce qu'on peut donner comme événement pour nos auditeurs, pour les mettre sur la piste de la bonne année mystère? Qu'est-ce qu'elle vous évoque, vous, cette année mystère, en l'occurrence?
Il y en a plein.
Moi, je crois que celui qui m'a frappé vraiment quand j'ai regardé le topo, c'était La mort de Balavoine. Mmh. Hein, vraiment, le début, cet accident d'hélicoptère qui a fait du bruit et tout ça, puis qui a lancé le disque de Balavoine, et j'y reviendrai plus tard.
Mmh. Et, alors, je vais te suivre. Un autre décès qui était un peu triste pour nous tous, c'était la mort d'un champion de vitesse à moto,
oui,
en Michel Colucci, dit Coluche. Mmh. Bon, les complotistes diront des choses, et puis voilà, il est mort d'un accident avec un putain de camion, comme dirait l'autre. Mmh. Hein, et effectivement, ça a été un événement marquant de cette année, puisque même s'il dérangeait beaucoup dans la société, il avait l'art de dire une vérité. Ce que pensaient les autres tout bas, il pouvait le dire à voix haute, lui.
Malgré tout, c'était tempéré par le fait que ça avait commencé déjà les Restos du Cœur. Et là, je veux dire qu'il avait quand même une image quand même qui était très, ouais, très, 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 enfin, chaud dans le cœur, quoi. Je veux dire, la population avait changé. Bon, avant, c'était un comique, bon, il disait des gros mots et tout ça. Et après, bon, c'est devenu quelqu'un de premier plan, politiquement parlant, quasiment, quoi.
Et ben, il a toujours été la voix du peuple, quand même, en sorte, oui, que c'est quelqu'un qui avait le cœur sous la main. On parle du décès, d'un événement aussi triste, du décès de Coluche, avec la création des Restos du Cœur. Ça fait aussi un parallèle avec Goldman, dont on parlait tout à l'heure, avec Yarl Colin Flambeau.
Mais ils ont travaillé ensemble. Hein,
C'est Goldman qui a fait le générique.
Ouais. Un autre événement, moi, que j'ai noté.
Alors, il y a un troisième mort. Alors, c'est pas la même chose, mais c'est Thierry Luluron.
Ben oui.
Mmh. Et je veux dire, vous vous rendez compte, Balavoine, Coluche, Thierry Luluron, c'est fou, quoi, dans la même
c'est
année.
C'est une année triste, oui. Ouais.
Mmh. Enfin, sur l'année, c'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps, c'était Johnny Hallyday et puis Aznavour. Hein.
Oui. Ouais. Il y a des années comme ça. Ouais.
Mais c'était pas la même année.
Non.
Parce que Johnny, c'était la fin de l'année et Charles Aznavour, ouais, c'était l'année suivante.
Mais moi, en ce qui me concerne, au niveau mondial, c'était, je me souviens, c'est l'explosion de Challenger, là,
de la fusée.
Et ça, ça m'avait marqué. Et puis surtout, il y avait quand même sept personnes, alors qu'on était habitué à avoir des succès, hein, dans les lancements. Et là, ça avait marqué le coup.
Moi, l'image, hein, c'est vrai, c'est, je me rappelle de l'image du président Reagan avec sa femme, hein, et qui regardait ça parce qu'ils étaient présents sur le lieu, hein, et puis même toute la foule, quoi, les gens qui étaient présents au moment du lancement, et puis bon, ils avaient l'air complètement effarés, quoi. Ils l'étaient.
Bon, pour aider nos auditeurs, on peut peut-être dire que c'était la décennie des années 80 quand même, hein, ça va au moins préciser les choses. Y a un événement, alors, dans les années 80 que j'ai découvert en préparant l'émission, c'est le prix du baril de pétrole.
C'est d'actualité encore.
Ouais, alors le pétrole aujourd'hui, s'il est très haut, dans cette année mystère, il est passé sous le seuil des 10 dollars le baril. Donc on était un petit peu dans le contre-choc pétrolier, et aujourd'hui, bah, ça nous fait rêver. Hein.
C'est sûr.
En fait, le choc pétrolier, il avait duré 10 ans, quoi, parce que ça avait commencé au milieu des années 70.
Bon.
Sur ça, on peut dire que c'était mieux avant, c'est ça?
Non. On peut dire aussi qu'il y a des cycles. Il y a des cycles, ça va, ça vient. Ouais. Donc, en fonction des contextes.
Je vais prendre un autre événement de l'année mystère qui n'était pas mieux du tout, c'était Tchernobyl.
Oui.
Là, c'était pas mieux avant. Hein. Pour le coup, ça a été une expérimentation un peu douloureuse pour tout le monde.
J'ai regardé récemment la série. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Elle est magnifique, cette série. Je trouve que On connaît les événements de Tchernobyl, mais je trouve que ça a été porté par des acteurs. Enfin, la Poulpa, je ne les connaissais pas, mais fantastique, même les petits rôles. Je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, mais je me rappelle d'une petite dame qu'on devait déloger de chez elle parce que la ville était contaminée. Elle avait très peu, il y avait très peu de dialogue, très peu de scènes, mais je trouve que c'était fort, fort, fort en émotion. Mais, franchement, je le conseille à tout le monde, si vous n'avez pas vu cette série, Tchernobyl, allez la voir. C'est, quelle que soit la génération, allez la voir.
Pour l'avoir vu aussi, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que finalement, on s'aperçoit que l'accident est un peu le fruit du système et de la place de l'individu dans le système.
Oui, c'est sûr.
C'est
après, ça alimente aussi la théorie complotiste aujourd'hui. Bon.
Il a répondu, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire.
Oh là là, bon, on a coupé Ricardo, désolé, mais effectivement, c'est l'heure de la rubrique ni pour ni contre, comme dirait Coluche, bien au contraire. Alors, on a un sujet sur un débat qui est léger hein, cette semaine, pour ou contre la boîte de vitesse automatique. Alors, les uns et les autres, on n'a que des conducteurs expérimentés autour de la table.
D'abord, Ayrton Senna.
Est-ce que vous avez une boîte de vitesse manuelle ou automatique, les uns et les autres?
Moi, j'ai les deux.
T'as les deux?
Pas sur la même voiture.
Non, moi j'ai une boîte manuelle, mais j'aurais bien aimé avoir une boîte automatique, mais c'est ma femme qui...
Elle résiste.
Elle résiste.
On va peut-être la faire changer d'avis.
Alors, je peux te dire... Attends, je laisse Marc pas parler, puis après...
J'ai une boîte manuelle, mais j'ai, dans mon entourage, en particulier mon fils, qui fait 100 000 km par an, par son métier, et qui utilise maintenant, depuis 2 ou 3 voitures, la boîte automatique. Et il en est très très content et il est capable de dire pourquoi.
Non mais moi je trouve c'est, je sais pas si ça rejoint les arguments, mais pour la route c'est reposant. C'est reposant et c'est vrai que ça demande moins d'attention, mais ça n'aide pas quand la route est trop monotone. Mais je trouve que c'est reposant et à contrario moi, c'est vrai que pour les longs trajets, je préfère la boîte auto, mais en ville, surtout que j'ai une toute petite sportive. Et par contre, toute petite sportive, je préfère la boîte manuelle parce que il y a un plaisir de conduite qui est différent.
Parce que la voiture est nerveuse, voilà, parce que t'as envie de la voir partir, voilà, et tout ça. Ouais.
Mais pour les longues routes, boîte auto, et on ne refuse pas le progrès.
Pour aller dans ton sens, Ricardo, mais je vais le formuler autrement. C'est reposant, oui et non. J'ai envie de dire, c'est soulageant et ça permet de focaliser son attention sur l'environnement, moi.
Exactement, c'est ce que me disait mon fils qui fait beaucoup de kilomètres, comme je l'ai dit. Et lui, pour lui, ça libère notamment la posture de conduite et on est beaucoup plus sensible à l'environnement. C'est-à-dire, il disait, par exemple, pour aborder un rond-point, je suis concentré sur ma courbe et non pas sur mes pieds, sur ma vitesse. Et donc, ça me permet d'être plus disponible, une certaine stabilité dans la conduite. Voilà, donc au niveau du poste de conduite.
Et puis, la nouveauté, c'est qu'avec les véhicules électriques aujourd'hui, c'est forcément une boîte de vitesse automatique. Je ne connais pas de véhicule automatique, de véhicule électrique avec une boîte manuelle.
Je pense pas.
Voilà. Donc, c'est un peu dans l'air du temps.
Et combiné aussi au régulateur de vitesse, c'est encore le repos complet.
C'est magique.
Ça gère tout.
Tu focalises ton attention ailleurs. Regarde.
Moi, la boîte automatique, j'aime bien. Ma femme, moins. Elle dit, on fait plus grand chose, alors, à part tenir le volant. Bah, je dis, c'est déjà pas si mal, mais regarde la route.
Oui,
regarde
c'est
la
route. Ça. Il reste un frein, quand même, à gérer. Hein. L'invention de la boîte automatique, alors j'ai été très surpris, hein, c'est plus ancien qu'on ne l'imagine, 1887, l'invention de la boîte de vitesse automatique. Je regarde ça. Et le premier à le commercialiser, c'est Mercedes en 1930.
Ils ont pionné de beaucoup de choses, Mercedes.
Voilà.
Sans pub.
Non, mais c'est vrai que c'est étonnant, on a l'impression que c'est tout neuf, mais en fait, la démocratisation, c'est depuis les années 1980. Alors, pour moi, c'était des véhicules plutôt haut de gamme qui avaient des boîtes de vitesse automatiques, mais c'est étonnant.
Voilà. Mais c'est marrant parce que la notion de boîte automatique, ça me rappelle une mobilette que j'ai eue. Enfin, une mobilette. Je ne s'appelais pas mobilette, parce que la mobilette, c'est une marque. Enfin, un vélomoteur, quoi. Oui. Et il y avait celle qui n'avait pas de vitesse. Enfin, il y a eu vitesse automatique, c'est-à-dire que le moteur bougeait,
oui.
et tu sentais que ça partait quand même, quoi. C'est assez curieux, quoi. Alors que et c'est les premières mobilettes vélomoteur que j'ai conduit.
Je pense aussi qu'il faut il faut des bonnes boîtes de vitesse, c'est-à-dire que elles ont évolué aussi dans le temps. par le passé, bon, ça grignotait un petit peu dans les passages. Actuellement, les dernières générations, ils sont hyper performantes.
Donc, ce que j'aime bien dans la boîte automatique, quoi, c'est que c'est précis.
Au niveau
c'est précis. Voilà. T'as un passage de vitesse, je veux dire, c'est sans à-coups.
Et peut-être que pour le moteur aussi, le passage des rapports au bon moment, c'est quelque chose d'intéressant.
Je pensais pas animer autant le débat avec la boîte de vitesse automatique.
Bon, par contre, on est en mode automatique.
Non, mais on est en train de parler des avantages, il y a quand même des inconvénients.
C'est un peu plus cher. Hein.
Alors, je pense pas tant au prix, mais je pensais moi à la consommation de carburant.
Alors normalement, ça consomme moins quand même la vitesse automatique.
Non, ça consomme un petit peu plus.
Bon.
Pas grand chose, mais ça consomme un
petit peu
plus. J'aurais
pensé comme Marc moi aussi que ça consommait.
Oui, moi, justement. Ouais.
Ah, non, toi, Ricardo, c'est juste parce que t'as le pied lourd, toi.
Non, mais justement, parce que je trouve que quand on gère nous-mêmes, on fait souffrir un peu plus le moteur, parfois, on laisse traîner, ou on accélère trop fort parfois, donc du coup, on a tendance à injecter trop d'essence, mais du coup, et qu'une boîte automatique qui gère, gérerait plus. Mieux que nous.
Alors après, effectivement, je pense que les utilisateurs de boîtes de vitesse automatique, il y a plusieurs modes en vitesse automatique et la plupart d'entre nous ne devront jamais utiliser le mode sport ou différemment. Donc peut-être que la conduite est plus souple et plus raisonnable, mais ça consomme un petit peu plus que la boîte manuelle.
Donc au niveau consommation, le débat reste ouvert.
Voilà. Moi, j'ai lu des chiffres que j'ai pas rapportés là, mais il me semble que c'était de l'ordre de 10% de surconsommation.
Okay.
Voilà. L'autre problème de la vitesse, boîte de vitesse automatique, c'est qu'on a moins de freins moteurs. Donc, pour le coup, effectivement, est-ce que c'est ça qui explique la surconsommation? Je n'en sais rien, mais le frein moteur, c'est quelque chose de moins efficace. Et pour avoir conduit l'an dernier en montagne, avec une boîte de vitesse automatique, le frein moteur, il y a une position spéciale, et il faut surtout pas... Faut lire le manuel, hein, de ceux qui ont des boîtes de vitesse automatique. Lisez le manuel pour faire un bon usage, parce qu'il y a un mode quand même adapté à la reprise et au frein moteur. Quoi d'autre sur la boîte de vitesse automatique, les uns et les autres?
Pour rejoindre ce que disait Ricardo, et là encore je cite mon fils, il disait on peut peut-être faire moins le kéké, quoi, le fou avec la voiture. C'est ce qu'il me disait. Ça peut être un inconvénient pour certains.
Ouais, c'est le problème de Ricardo, dès qu'il met sa casquette et sa chaîne en or, ça y est.
Comme à Harlem, c'est ça? Dans le Bronx.
Donc voilà. On va reprendre une chanson de l'année mystère et puis on annonce l'année mystère en question après. On se retrouve tout de suite avec, je ne vous dise pas de bêtises, ça va pas nous rajeunir, Stéphanie de Monaco comme un ouragan. À tout de suite.
Mon cœur bat trop fort.
Comme un ouragan par Stéphanie de Monaco et l'année mystère qui veut la dévoiler. Allez Marc, c'est parti.
C'est l'année 86.
1986. Je vais juste conclure le sujet sur les boîtes de vitesse automatique et on va essayer de mettre tout le monde d'accord. J'ai des personnalités qui sont décédées dans des accidents tragiques. Vous allez me dire si c'était des boîtes de vitesse manuelles ou des boîtes de vitesse automatiques.
C'est un peu morbide ton jeu.
Alors, la princesse Diana, la Mercedes, elle était automatique ou manuelle d'après vous ?
Allez, auto.
Manuel.
Eh bien, c'était une boîte manuelle.
Ouais.
Alors, ouais, c'est la boîte de vitesse automatique, on va voir si ça sauve ou pas. Pierre Le Faucheux, alors ça ne te dira rien du tout, Ricardo, mais c'était un directeur de Renault. Qui a eu un accident dans une Renault Frégate en 1955.
La Frégate.
Ouais, ouais, oh oui, ça rappelle des souvenirs tout ça. Oui. Hein. Boîte de vitesse manuelle ou boîte de vitesse automatique ?
Manuelle.
Oh oui,
une boîte de vitesse manuelle, c'est la deuxième. Hein. James Dean, même Ricardo, il connaît James Dean.
Oui. Oh, ah. Avec une voiture de sport. Ah non, alors ça peut pas être automatique quand même, si.
James Dean.
Ouais.
En quelle année tu dis ?
Alors l'année, c'est 1955 également.
Oh.
Ah mais c'est les États-Unis, hein.
Oui.
Les États-Unis, les boîtes automatiques, ça arrivait tôt. Hein.
Oui, mais
non, mais je dirais
manuel aussi.
C'était une boîte manuelle. Alors pour le cinéaste que tu es, Ricardo, le film avec James Dean.
Alors tu me poses une colle là.
le ou les.
Je me rappelle plus.
Grace Kelly en septembre 82, boîte de vitesse manuelle ou automatique?
Qui c'est qui conduisait?
C'était Grace elle-même.
Ouais, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Ouais, puis on a dit aussi que c'était sa fille.
Ouais. C'est peut-être du manuel encore, peut-être.
Eh bien, c'était une boîte manuelle. Alors là, je vais vous demander de l'aide. Hein. Le pilote automobile italien. Ouais. Donc le pilote de course automobile, Michele Arboretto. Comment tu le prononces, Jean-Jacques? Mieux que moi.
Michele Arboretto. Bon. Non, j'en sais rien du tout.
Bon, très clairement, il perd le contrôle de son véhicule à 320 km/h. Boîte de vitesse manuelle ou automatique, c'était, je précise, en 2001.
C'était sur un circuit de course. Forcément manuel.
Oui, c'était une boîte manuelle également.
Et 4 heures du Mans.
Oui. Et pour les artistes, alors j'ai trois derniers noms, Helmut Newton, Albert Camus et Fernand Reynaud.
Ah.
Dites-moi. Manuel ou automatique, tous ces gens-là?
Oh, Manuel.
Manuel. Je sentais que ton jeu, c'était de nous amener à dire que la boîte manuelle tue.
Et l'automatique,
on ne sait pas. Bon, effectivement. Bon, le fait est que tous ces véhicules étaient avec des boîtes de vitesse manuelle. Donc, de là à dire que ça tue, non, c'est peut-être exagéré. Mais nos stars se sont tués avec des boîtes de vitesse qui, visiblement, ils ne maîtrisaient pas très bien.
Avec l'arrivée tardive de la boîte automatique, il faut attendre une cinquantaine d'années pour faire un bilan.
Il y a des accidents qui se passent avec des boîtes automatiques. Qui tue aussi, parce que ça n'enlève pas, on va dire, l'inattention, l'alcool, le téléphone au volant, tous ces facteurs-là tuent, donc, quelle que soit la boîte.
Bon, dans tout ça, l'année 86, on l'a dit, hein, il y a eu des événements heureux et malheureux. Voilà, je pense qu'il faut. Tiens, dans les événements heureux, j'avais quand même noté aussi Gorbatchev et Reagan qui s'étaient rencontrés pour, on va dire, un peu réchauffer l'atmosphère entre deux blocs. Maintenant, vous, 86, ça vous évoque quoi, Jean-Jacques et Marc?
Non, je reviens toujours à ce qui m'a frappé, quoi, à cette époque-là. C'est, alors, si je regarde après les événements qui ont eu lieu dans l'année 86, bon, je veux dire, il y a plein d'événements politiques, plein d'assassinats, plein de... De toute façon, les catastrophes, ça court, hein, toujours. Hein. En événements heureux, ouais.
On va passer à la suite. Je vous propose d'écouter la chronique musicale de Jean-Jacques. Jean-Jacques, qui est un grand amateur et qui va nous parler de quel album sur l'année mystère.
Alors, c'est toujours dur de choisir pour moi ce qui m'a le plus profondément marqué niveau musique. Toujours dur. Pour les albums, bon, il y a eu quand même pas mal de choses au niveau musique. Hein. Ben, Niagara, t'en as parlé tout à l'heure. Hein. Bon, Jean-Louis Aubert, qui commence sa carrière solo, hein, avec juste une illusion. Oui. Ça, on l'entend souvent. Elsa, t'en vas pas. Tu te rappelles de ça?
Tout à fait.
Image, les démons de minuit. Bon, ça, t'as peut-être entendu, parce que ça en boîte, ça sort.
Il a le rythme dans le sang.
Il y a Mylène Farmer qui commence, hein, avec son premier clip qui fait scandale, Libertine. Je suis libertine. Ouais, d'accord. Miss Maggie, bon, qui a fait quand même pas mal de bruit ici et de l'autre côté de la Manche, hein, la chanson de Renaud sur Thatcher. Jean-Jacques Goldman, évidemment, qui écrit la chanson des Restos, ouais, cette année-là,
c'est ça,
hein, pour les Restos du cœur. Puis il y a des disques à gros succès, hein, Gigi, Jean-Jacques Goldman, Étienne Dao, Madonna, enfin voilà.
Et qui plus est, pour les Restos du cœur, ça avait encore plus de sens avec le décès de Coluche.
Évidemment, ouais. Mais tout est arrivé en cascade, là. Alors, sans oublier quand même Jean-Michel Jarre, justement, par rapport à l'événement dont on parlait tout à l'heure, justement, la catastrophe de Challenger, Jean-Michel Jarre, qui avait composé donc un morceau, hein, pour son ami astronaute Ron McDair, et qui est mort dans la... Et il devait d'ailleurs jouer ce morceau au saxophone, hein, ce qui aurait été le premier morceau joué dans l'espace. Puis en fait, ça n'a pas eu lieu, bien sûr. Alors, si j'ai choisi le disque, bah oui, autrefois on disait un disque, hein, on disait, voilà, le disque de Daniel Balavoine, Sauver l'amour, alors que le disque est sorti en fait en octobre 85. Mais c'est bien sûr la catastrophe et la mort de Balavoine qui a propulsé le disque, et pendant 3 mois, il a été la première vente. Hein. Mmh. Et en plus, c'était un bon disque.
Un accident d'hélicoptère dans le Paris-Dakar, qui partait à l'époque de Paris et qui arrivait à Dakar.
C'était vraiment un Paris-Dakar. Cet album s'est propulsé. Propulsé aux premières places, hein. Il a été beaucoup écouté, beaucoup, beaucoup repris. Et je l'ai beaucoup apprécié parce que je l'ai beaucoup écouté, j'ai écouté les textes et surtout la musique. C'était vraiment de la bonne variété pop, très, très, très... Bon, je veux dire que c'est vrai qu'il était copain avec Michel Berger, je veux dire qu'il y avait quand même un bon niveau là-dedans. J'aimais les arrangements, j'aimais les textes, les chansons et toute l'énergie, la sincérité que Daniel Balavoine exprimait dans l'interprétation. D'ailleurs, pas mal de titres ont été beaucoup diffusés. En particulier, repris dans les concerts des Enfoirés. On a souvent entendu les mêmes chansons, les chansons de Balavoine. Le premier morceau, c'est Aimer plus fort que d'être aimé. Tout le monde connaît ça aussi. Tous les cris, les SOS, c'est pareil, hein, ça a été repris, on rappelle. Il y a plein de gens qui ont repris ces chansons. On va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert. Elle qui ne connaît pas La Ziza. Petite rue de Casbah, au milieu de Gaza. Petite brune enroulée d'un drap, cours autour de moi.
Le seul défaut de Balavoine, finalement, c'est d'avoir écrit en français alors que les textes étaient humanistes au possible, quoi.
Alors, ça, c'est vrai. Hein. Bah, par exemple, Sauver l'amour. Qui donne son titre à l'album. Parler un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur d'un homme qui voudrait trouver en douceur au fond de lui un reste de lueur, l'espoir de voir enfin un jour un monde meilleur. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver?
chansons moins connues, moins diffusées complètent ce huitième et dernier disque, évidemment, fatalement, de Daniel Balavoine, mais qui sont bien représentatives, elles aussi, de la bonne variété pop aux textes forts et thèmes divers, politiques, sociaux. On se rappelle de cette position face à Mitterrand, quand il se lève de table et qu'il en a marre parce qu'on lui donne pas la parole, quoi. Donc je veux dire qu'alors que lui, bon, il est considéré comme jeune et Mitterrand le fait rappeler et tout ça. Et je trouve que c'était. Tu l'avais vu, ça, Ricardo? C'est une séquence vachement célèbre.
Une impertinence très légitime à l'époque.
Ouais, non, mais ça faisait du bien, hein. Ça faisait du bien. Et on sentait qu'il était pratiquement ému aux larmes, Balavoine, parce que je veux dire qu'il se sentait frustré.
Donc un album qui n'est pas né par hasard, hein. C'était aussi le fruit d'un contexte mondial compliqué. Enfin, il était marié avec une maghrébine, hein, si je dis pas de bêtises. L'Aziza, c'est pas un hasard, c'est pas arrivé comme ça.
Il a pris beaucoup de thèmes qui étaient très forts. Hein, il avait un sacré courage quand même.
Et ce n'était pas que des mots chez lui, puisqu'il a fait énormément pour l'Afrique. Entre autres, aller creuser des puits à l'époque. C'était une manière pour lui d'aller au-delà du Paris-Dakar, qui pourrait être un vulgaire loisir et dont il a fait une épreuve humanitaire. On va écouter, alors pas Daniel Balavoine immédiatement, on va écouter une nouvelle chanson de Laurent Voulzy. On va se mettre un petit peu les doigts de pied en éventail et on va écouter Belle Île en mer. A tout de suite.
Belle Île en mer, Marie Galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mou, c'est lent. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part moi des souvenirs d'enfants.
Belle île en mer par Laurent Voulzy, ça détense un petit peu quand même. Hein. Bon, on va passer un petit peu de temps avec, avec des annonces de bénévolat, de France Bénévolat. Marc, tu es venu pour nous en parler. Et puis, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, je crois que tu vas nous mentionner quelques besoins que vous avez à l'association.
Tout à fait, tout à fait. La nouveauté, c'est que France Bénévolat de Maine-et-Loire, donc, que je représente ici, recrute des bénévoles.
Bien dans le micro.
Recrute des bénévoles. Donc dans ce contexte effectivement de crise sanitaire, les associations cherchent à renouveler leur effectif, à faire évoluer leurs pratiques. Et nous, France Bénévolat, nous sommes à leur côté, hein, puisque c'est notre mission. Et il se trouve que nous sommes une petite équipe pour tout le Maine-et-Loire. Hein, nous sommes 12 personnes et notre effectif est insuffisant. Et en plus, il faut qu'on le renouvelle parce que les personnes aussi ont besoin de, à un moment donné, quitter l'association. Donc, il faut que ça se renouvelle. Donc, voilà pourquoi je lance un appel donc sur les ondes, hein, aux bonnes volontés, pour nous rejoindre, tout simplement. Et ce que je dois dire, c'est qu'être bénévole au service du bénévolat, puisqu'il s'agit bien de ça, c'est une mission passionnante. C'est un plaisir de se retrouver et d'œuvrer ensemble pour être utile aux candidats bénévoles et aux associations, puisque ça, c'est notre vocation. Alors, quels sont les types de missions que nous recherchons, donc à France Bénévolat Maine-et-Loire? Je dirais qu'il y en a trois types principaux, et puis une qui est plus technique, et une mission de comptabilité. Hein. On recherche une personne en mesure de nous apporter des éléments sur l'aspect comptable, mais l'essentiel, c'est d'abord la mission d'accueil, c'est-à-dire... La mission d'accueil, c'est écouter les candidats au bénévolat, hein, qui viennent nous rejoindre, qui prennent contact avec nous, et les écouter pour justement comprendre leurs attentes et faire en sorte que justement ces attentes les renvoient à des missions qui sont demandées par nos associations adhérentes.
Oui.
Donc c'est cette relation qu'il faut réussir. Et c'est un travail passionnant parce que c'est un travail d'écoute et de compréhension des personnes, parce qu'on s'aperçoit souvent que le candidat bénévole, il sait pas trop ce qu'il veut. Enfin, faut en quelque sorte qu'il accouche un peu de son projet, hein, par rapport à ça. Donc ça, c'est une mission importante. Donc là, on recherche ce genre de profil, mais aussi on recherche aussi des missions d'accompagnement, des gens qui ont un profil d'accompagnement. C'est-à-dire, c'est vrai que nous, en tant qu'association France Bénévolat, nous sommes amenés à accompagner les associations sur le plan du recrutement, de la fidélisation, comment fidéliser des bénévoles, comment les intégrer à l'association. Autant de sujets qui ne sont pas toujours faciles donc à traiter, hein, dans le concret. Et nous, France Bénévolat, nous sommes un peu des centres ressources par rapport à ça. Donc ça suppose des personnes qui soient en mesure d'intervenir devant un groupe, d'organiser, participer à l'organisation d'un stand, voilà, de rentrer en contact avec les gens de l'extérieur, le public. Et donc voilà, faut ces qualités-là. Et puis, le dernier profil, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des réseaux sociaux. Nous recherchons effectivement des personnes qui pourraient nous aider sur la valorisation du bénévolat et surtout développer notre image auprès des associations, auprès du public, pour que justement notre service soit de mieux en mieux connu.
Un community manager.
Voilà, c'est ça, en quelque sorte. Hein. Voilà, donc l'appel que je fais, c'est que en venant en France Bénévolat, vous rejoignez une équipe avec un fonctionnement collectif et participatif, et on y tient beaucoup. Hein. Nous avons même une gouvernance partagée, hein, au niveau des responsables. Donc, ce qu'on souhaite, c'est effectivement que chacun y trouve sa place dans notre association. Nous accordons aussi beaucoup d'importance au respect du temps personnel de chacun, à la convivialité. Le temps personnel, ça veut dire qu'on respecte les choix que fait le bénévole.
C'est pas un sacerdoce, c'est un dévouement.
Voilà, c'est ça. C'est voilà. On sait très bien qu'actuellement les personnes dans le monde actuel sont hyper sollicitées. On a beaucoup de possibilités de loisirs, aussi de charges. Hein, ça peut être des charges familiales, des parents, etc. Et donc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on peut s'engager dans une association, mais on n'est pas obligé d'y passer tout son temps. Il faut aussi respecter le temps personnel, et c'est un facteur d'équilibre et aussi de pérennité du bénévolat dans les associations. Et puis la convivialité, hein. On accorde de l'importance à des moments conviviaux où les gens se retrouvent.
C'est utile pour mieux se connaître.
Ah ben, tout à fait, hein. Pour mieux se connaître, il faut travailler ensemble pour faire les choses ensemble, mais il faut aussi passer du temps autour d'un verre, autour d'un pot, voilà. C'est extrêmement important pour nous en tant que bénévoles. Et puis, nous portons aussi une attention particulière aux conditions d'intégration dans l'association. C'est quelque chose qui nous semble important. L'idée qu'on donne du temps aux bénévoles pour prendre sa décision d'adhérer ou pas. Donc, il y a l'importance d'expliquer le projet, hein, parce que un bénévole adhère d'abord à un projet, hein, avant d'adhérer à une action concrète. Donc là, on prend le temps d'expliquer, d'écouter, et puis aussi on fait en sorte qu'il y ait un tutorat, hein, qui fonctionne, et voire des formations s'il y a besoin. Donc vous voyez, donc on a tous ces... On travaille dans cet esprit-là.
Moi, je voudrais compléter un tout petit peu, c'est-à-dire que les gens qui s'adressent à France Bénévolat, ils ont tous, je crois, un point commun, c'est qu'ils ont un besoin de sentiment d'utilité sociale.
Tout à fait.
Hein, donc, quand on vient à France Bénévolat, c'est aussi pour savoir comment se rendre utile. Et ça, j'ai envie de dire, c'est toute la valeur ajoutée de l'association France Bénévolat, qui est un accompagnement humain. Et on en parlait hier avec Marc. Il existe aujourd'hui des outils numériques qui n'apportent pas du tout le même service.
Tout à fait. Hein? Tout à fait. Je pense que l'outil numérique, ça peut être un moyen de contacter facilement, rapidement. Mais pour arriver à un choix d'utilité, enfin du choix d'une association la plus adaptée, la plus adéquate avec ce que vous ressentez en tant que envie d'être bénévole, je crois que ça passe aussi par l'entretien, par l'échange entre nous, par exemple, qui sommes des intermédiaires entre les associations et puis les candidats bénévoles. Mais je crois que c'est ça, ça passe aussi par ce temps de relation que nous, France Bénévolat, auquel nous tenons beaucoup, hein, la France Bénévolat.
Et moi, je peux en parler, hein, pour France Alzheimer 49, où on a bénéficié de votre accompagnement. Je pense que réellement, c'est bien plus que de la mise en relation. C'est-à-dire qu'en fonction des qualités des personnes, vous êtes capable d'orienter vers telle ou telle autre association qui va permettre à chacun d'exploiter tout son potentiel.
Tout à fait. Il y a une dimension, comme tu le soulignes, une dimension d'orientation, d'orientation des personnes. Voilà. Donc, pour la prise de contact, si vous voulez nous rejoindre, hein, donc on peut vous donner des points de repère. Donc notre adresse, nous sommes à l'espace Frédéric Mistral, 4 allée des Baladins, à Angers, donc dans le quartier de la Roseraie. Donc c'est le tram, l'arrêt du tram, c'est Jean Villard, et nous accueillons donc les personnes tous les après-midi, donc du lundi au vendredi, de 14h à 17h. En ce qui concerne le téléphone, donc deux téléphones, le 09 84 10 68 95 et puis le 07 68 77 22 12.
On va le répéter pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de prendre un papier et un crayon.
Voilà, on le répète, donc le 09 84 10 68 95 ou le 07 68 77 22 12. Et notre adresse email, donc c'est contact, comme le mot contact, @ France Bénévolat, en un seul mot, -angers.fr.
Et donc, sans accent, tout ça, évidemment.
Et tout ça sans accent, bien sûr.
Je vais juste rajouter un petit point qui est un peu méconnu, c'est qu'aujourd'hui, en faisant du bénévolat, ça peut être gratifié. L'émission Il est l'heure, Monseigneur s'adresse évidemment plutôt aux seniors, mais aux plus jeunes qui nous écoutent, si vous voulez faire du bénévolat, vous pouvez abonder votre compte personnel de formation si vous pratiquez 200 heures de bénévolat en 2 ans, dont 100 heures dans la même association. Donc ça peut permettre de passer le permis de conduire, par exemple. Mmh. Ça peut permettre de financer des projets parallèles. Et ça, c'est vrai que ce sont des dispositions un peu méconnues quand même.
Tout à fait.
Et au-delà du carnet, enfin de la valorisation des compétences acquises, parce qu'il y a un tremplin avec le carnet bénévolat. Je sais qu'il y a un projet actuellement au niveau des universités aussi pour que ce soit inscrit dans leur parcours comme activité facultative, mais que ce soit inscrit dans leur parcours aussi.
Tout à fait, parce qu'on constate que nous, statistiquement, l'évolution favorable du bénévolat, notamment auprès des jeunes qui sont dans des situations, je dirais, d'enseignement universitaire, entre autres, hein, un peu universitaire. Et donc, ça s'explique en particulier par ce que tu viens de dire, c'est-à-dire dans l'université intègre le bénévolat dans les cursus. Et donc, ça explique aussi l'intérêt que portent les jeunes, donc, en particulier les jeunes étudiants, au travail bénévole. Et nous, on le constate au niveau des demandes.
Bon, je ne veux pas vous couper la chic, messieurs, mais on va arriver au terme de cette émission. Et on ne va pas avoir le temps de diffuser la cinquième et dernière chanson. On va quand même essayer de prendre une minute ou deux pour l'agenda de la semaine. Dans les deux semaines à venir, du 18 au 31 octobre, est-ce que vous avez des choses à recommander les uns et les autres?
Alors, c'est pas un agenda avec une date précise, mais on peut mettre dans les choses à faire, comme dans la continuité de ce que disait Jean-Marc.
Marc.
On va y arriver. Tu le couperas au montage. notamment la halte, par exemple, la halte Alzheimer Croix-Rouge a réouvert depuis le 6, et on est dans le même constat. On manque beaucoup de bénévoles et c'est pas la seule, beaucoup d'associations en parlent, et on a eu un gros élan de solidarité pendant les phases de confinement, notamment la Croix-Rouge. On a eu beaucoup de personnes qui se sont investies, mais j'ai l'impression que ça s'est pas forcément converti dans la durée, et aujourd'hui on a besoin de vous, n'hésitez pas,
venez exprimer vos talents et faire profiter tous les publics de ce que vous savez faire pour eux. Moi, j'ai juste un petit conseil. Ça va être bientôt les vacances scolaires, donc la plupart d'entre vous vont avoir du temps peut-être à passer avec des petits enfants. Il y a des cinémas qui ont besoin de vous aussi, parce que la fréquentation a bien baissé, et je crois que ça tombe bien puisqu'il y a des films qui sortent pour les enfants. Donc voilà, c'est une petite idée que je vous livre. Allez au cinéma avec vos petits enfants. Je crois que ça fera plaisir à tout le monde. Voilà.
Bonne idée.
Sur ces bonnes paroles, messieurs, on salue Josiane au passage, hein, qui sera avec nous, j'espère, la prochaine fois.
Coucou Josiane.
Voilà. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Il est l'heure, Monseigneur. Merci Marc.
Merci et au revoir.
Merci Ricardo.
Merci.
Et Jean-Jacques, à la prochaine.
À la prochaine Raphaël, merci.
Salut.
Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins, à bicyclette, bicyclette, bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.